VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir à tous. Dans 10 minutes, le magazine au féminin, ce sera en direct avec Nathalie Bage. Mais tout d'abord, l'actualité. Les choses évoluent. En Suisse, à Lausanne, le président iranien Hassan Rouhani a affirmé aujourd'hui que des solutions avaient été trouvées sur les paramètres clés du dossier nucléaire de Téhéran. Selon l'AFP, l'écriture d'un accord final doit commencer immédiatement pour être terminée d'ici le 30 juin, a écrit pour sa part Rouhani, le président Rouhani, dans un message sur son compte Twitter peu avant la conférence de presse conjointe de l'Iran et des grandes puissances à Lausanne en Suisse. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, salue de bonnes nouvelles. Il y a une entente sur les points clés en vue d'un accord final, a déclaré pour sa part dans un tweet le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier. Attaque de l'université de Garissa au Kenya. Les autorités kenyanes annoncent 70 morts. Les précisions tout de suite avec vous, Bagasi Koura.
Selon le ministre de l'Intérieur, Joseph Nkaiseri, environ 500 étudiants sont recensés vivants, 4 terroristes ont été tués et 90% de la menace éliminée. Selon l'AFP, il n'a pas indiqué si d'éventuels assaillants étaient toujours à l'intérieur. L'attaque a été lancée ce matin à l'aube par les islamistes somaliens Shabab contre l'université de Garissa dans l'est du Kenya, à la frontière somalienne. Selon les autorités, 2 agents de sécurité ont été abattus dans cette attaque qui a été précédée d'une explosion. La Croix-Rouge fait état d'un nombre indéterminé d'étudiants otages sur le campus. Selon l'AFP, les Shabab affirment que le commando a laissé partir les musulmans et a gardé les autres en otage. Dans un discours, le président Uhuru Kenyatta a présenté ses condoléances aux familles des victimes.
Nous continuons à prier pour le prompt rétablissement des blessés et le sauvetage en toute sécurité de ceux en otage encore détenus.
Le président a également annoncé qu'il allait accélérer la formation de 10 000 policiers supplémentaires, affirmant que le pays a souffert inutilement en raison de la pénurie de personnel de sécurité.
En Guinée, l'opposition a appelé à observer une journée ville morte aujourd'hui à Conakry. Cette initiative visant à protester contre le calendrier électoral a été partiellement suivie, nous dit Timothée Donagmaï.
L'appel à cette journée Conakry-Ville-Morte a été relativement respecté dans la capitale guinéenne. Selon notre correspondant, les boutiques n'ont pas ouvert sur le grand marché de Madina et la circulation a été interrompue plusieurs heures sur un des principaux axes routiers de la ville. Toutefois, les employés se sont rendus au travail dans le secteur privé, les banques et l'administration. Aucun incident n'a été reporté. L'ancien premier ministre Sidya Touré de l'Union des forces républicaines, UFR, un des dirigeants de l'opposition, a estimé qu'une bonne partie des militants de l'opposition avait suivi sa consigne. Il a indiqué à l'AFP que l'opposition allait appeler à de nouvelles manifestations. Pour rappel, l'opposition conteste le calendrier des prochains scrutins annoncés le mois dernier par la Commission électorale nationale indépendante avec la présidentielle en octobre prochain et des élections locales en mars 2016. Les opposants réclament l'inversion de ce programme avec l'organisation des locales avant la présidentielle se fondant sur des accords signés en juillet 2014 avec le gouvernement.
Au Mali, des casques bleus reconnus responsables de la mort de 3 manifestants tués par balles à la fin du mois de janvier dans le nord du pays. C'est ce qu'indique le porte-parole de l'ONU cité par l'AFP. L'enquête a conclu que des membres d'une unité de police de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, avaient fait usage excessif et non autorisé de leur force pendant la manifestation, provoquant la mort par arme à feu de 3 manifestants et blessant 4 autres. Tension à Ouagadougou entre le premier ministre et les grévistes. Isaac Zida a accusé ces derniers de vouloir instaurer un climat d'anarchie au Burkina Faso avant l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le gouvernement assure la transition jusqu'aux élections s'opposera avec fermeté et responsabilité à toute tentative de déstabilisation d'où qu'elle vienne, a averti M. Zida dans une déclaration radio-télévisée. Du nouveau dans l'affaire Hissène Habré au Sénégal, un magistrat burkinabé a été choisi pour présider la cour d'assises spéciale de Dakar devant juger l'ancien président tchadien. C'est ce qu'indique l'agence de presse sénégalaise. L'Union africaine avait lancé un appel à candidature alors que les magistrats sénégalais et tchadiens n'avaient pas été autorisés à postuler par souci d'impartialité. Rappelons qu'Hissène Habré, en exil au Sénégal depuis le renversement de son son régime en 1990 est accusé de milliers d'assassinats. Au Nigeria, le couvre-feu imposé dans l'état de River a été levé. La mesure avait été prise la semaine dernière dans cette région pétrolifère du sud du pays suite aux troubles liés aux élections présidentielles et législatives. En Égypte, au moins 5 soldats ont été tués aujourd'hui dans 2 attaques dans le nord du Sinaï où l'armée combat une branche locale du groupe État islamique, selon la police. Les soldats ont été pris pour cible par des militants, terme utilisé par les autorités pour désigner les insurgés djihadistes qui ont attaqué à l'arme automatique et aux lance-roquettes 2 postes de contrôle routier, l'un à Sheikh Zouaïd, l'autre à Rafah. Le point de passage entre l'Égypte et la bande de Gaza ont indiqué à l'AFP des responsables locaux de la police.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Les rebelles chiites houthis au Yémen et leurs alliés ont pris d'assaut ce jeudi le palais présidentiel à Aden, dernier symbole de l'État infligeant un revers à l'Arabie saoudite, engagée depuis 8 jours dans des frappes aériennes contre ses miliciens soutenus par l'Iran. Jacques Aristide.
Même après cette déconvenue, Riyad a juré de défaire les insurgés houthis qui contrôlent déjà la capitale, la Sana'a, et plusieurs régions du Yémen. L'AFP rapporte qu'au moins 44 personnes, dont 18 civils, ont été tuées dans ces violents combats entre les rebelles et les forces favorables au président Abd Rabbo Mansour Hadi, qui a quitté Aden fin mars. Profitant du chaos sur pratiquement tout le territoire du Yémen, AKPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, a pris d'assaut ce jeudi même la prison centrale de Moukalla, près d'Aden, et a libéré plus de 300 détenus, dont un de ses chefs, Khaled Batarfi. Ce jeudi encore, un garde à frontière saoudien a été tué et 10 autres blessés par des tirs nourris depuis une zone montagneuse du Yémen, selon l'agence de presse gouvernementale saoudienne. L'Arabie saoudite sunnite qui dit vouloir mettre un terme à l'influence de l'Iran chiite auquel sont liés les outils.
En Irak, les artificiers ont désamorcé aujourd'hui des bombes et autres engins explosifs posés sur les routes de Tikrit, 24 heures après que Bagdad a annoncé la libération de cette ville stratégique occupée en juin dernier par le groupe État islamique. Hier, le Pentagone a dit que les Irakiens contrôlaient le centre-ville et le principal QG du gouvernement, mais qu'ils se heurtaient encore à des poches de résistance de la part de centaines de djihadistes. En Afghanistan, au moins 17 personnes ont été tuées et 50 blessées aujourd'hui par un kamikaze dans la province orientale du Khor. Un porte-parole du gouverneur local a dit à la VOA que cet attentat suicide a eu lieu lors d'un rassemblement provincial contre les prétendues pratiques corrompues du gouvernement provincial. Quant aux talibans, un de leurs porte-paroles dément leur implication dans cette explosion. Ici même aux États-Unis, les législateurs de l'Indiana ont décidé d'amender la loi qu'ils ont approuvée récemment sur la liberté religieuse pour s'assurer que les entreprises ne pourront pas l'utiliser pour faire de la discrimination contre leurs clients homosexuels. L'Indiana et son gouverneur conservateur, le républicain Mike Pence, ont provoqué un tollé à travers le pays après l'approbation de la loi en question.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
On termine ce journal avec du sport. Le Maroc va participer finalement aux éliminatoires de la CAN 2017, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le tribunal arbitral du sport a annulé ce jeudi les sanctions sportives prises par la Confédération africaine de football contre le Maroc qui avait refusé d'organiser la CAN 2015 en raison de l'épidémie d'Ebola. Le Maroc avait été suspendu des Coupes d'Afrique des Nations 2017 et 2019, mais le tribunal a décidé d'annuler cette décision. Le TAS a également annulé les lourdes sanctions financières infligées à la fédération marocaine. La FRMF a été condamnée par la CAF à verser près de 9 millions d'euros au titre de réparation et préjudice. Autre affaire de gros sous au Comité international olympique qui a fait preuve de transparence. Pour la première fois, conformément aux promesses de l'agenda 2020, le Comité international olympique a publié le montant des indemnités qu'il va verser à ses membres et à son président Thomas Bach, qui va recevoir 225 000 euros par an. Le CIO va verser à chacun de ses quelques 115 membres une indemnité journalière de 450 $ quand il siège et une indemnité annuelle de 7 000 $ pour couvrir les frais administratifs. Et pour terminer, quelques résultats du championnat nord-américain de basketball, le NBA. Les San Antonio Spurs se sont qualifiés pour la 18e fois de suite pour les playoffs NBA en s'imposant à Orlando 103-91. Vous suivez VOA Afrique. Prochaine escale, ce sera le magazine au féminin avec Nathalie Bache. C'est en direct.
Soyez au cœur de l'info.